L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Costet.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce tout nouveau numéro de l'Hebdo. Radio Patrimoine, je vous rappelle, c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité économique, financière, immobilière. On va un peu tout mixer sur cette émission qui est exceptionnelle puisqu'elle est délocalisée. Nous sommes en direct, porte-maillot, au CIMI, le salon de l'immobilier d'entreprise. On est ravis d'accueillir Louis Ravreau. Bonjour Louis.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes directeur commercial immobilier chez Wicid Immobilier.
Fait.
On va voir, on va redécouvrir Wicid, savoir comment bien investir. Et on est également en compagnie de Jean-David Haas. Bonjour Jean-David.
Bonjour Fabrice.
Directeur général et cofondateur de Nextage AM. On va se poser la question avec vous, messieurs. Voilà, est-ce qu'on peut, en cette fin d'année, encore investir? Sur quoi est-ce qu'il y a, dans les dernières minutes, peut-on défiscaliser un petit peu si, voilà, comment faire, sur, que ce soit sur l'immobilier ou eh bien, sur la bourse ou sur le private equity? C'est ce qu'on va voir ensemble. Ce nouveau numéro d'Hebdo Patrimoine, c'est parti.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
On démarre avec vous, Louis Ravreau. Je rappelle que vous êtes directeur commercial immobilier chez Wicid Immobilier. On resitue ce que fait Wicid.
Alors Wicid, c'est une plateforme de crowdfunding immobilier qui permet donc aux investisseurs particuliers d'investir dans des projets de promotion immobilière, de marchand de biens ou d'aménagement foncier via notre plateforme, donc plateforme web, hein, qui en fait désintermédie l'investissement, qui permet à l'investisseur d'aller donc placer son argent directement sur des projets d'opérateurs immobiliers.
Vous êtes un des pionniers, hein, du crowdfunding. C'est pratiquement vous qui avez démarré. C'est quoi, 2012, 2014?
On a démarré. Alors on peut dire qu'on est le pionnier, effectivement, puisqu'on est la première plateforme à avoir été créée en 2008. Donc à une époque où le crowdfunding n'existait pas sous cette forme-là. Il existait dans la culture, mais il n'existait pas sur le financement de l'économie réelle. Et on a commencé en 2008 pour financer en capital des jeunes sociétés, des startups, tous secteurs confondus, mais quand même avec une appétence pour la santé et les biotech. Et petit à petit, on a développé le système. On a beaucoup contribué à la mise en place de la réglementation qui a permis de donner en fait naissance à cette industrie, puisque maintenant, il y a un agrément de plateforme, et ça, c'est très important, qui a été en fait mis en place en 2014. Et c'est à partir de là qu'on a pu vraiment développer le modèle et lancer le financement de l'immobilier.
Voilà, crowdfunding en bon français, le financement par la foule, hein, la foule des investisseurs qui peut, avec des petits tickets, finalement, on va en parler, eh bien, participer à des projets à l'essor et évidemment en avoir un rendement assez exceptionnel. En ce moment, tiens, une note sur la réglementation qui a beaucoup accéléré grâce à un ancien ministre des Finances devenu président de la République, Emmanuel Macron, qui a vraiment voilà, démocratisé le système et on dit voilà, débloquer aussi un certain monopole bancaire.
Oui, alors tout à fait. Les agréments ont évolué et en fait, au départ, on avait des plafonds d'intervention en fait par opération, hein, qui étaient assez faibles puisque c'était une industrie naissante. Et aujourd'hui, avec la loi Pacte, le crowdfunding permet de financer des opérations jusqu'à 8 millions d'euros par opération. Donc, c'est des montants qui sont considérables et qui permettent de faire beaucoup de choses en immobilier.
On a l'impression qu'il y a eu un pivot chez Wicid. Ça fait un petit moment qu'on vous suit. Alors peut-être pas depuis 2008, mais depuis il y avait un moment, une centaine de plateformes, hein, qui jouaient des coudes, et vous êtes parmi les survivants. Le domaine, évidemment, s'est structuré. Maintenant, il y a quelques grands acteurs qui émergent, et vous en faites partie. On a l'impression qu'il y a eu un pivot, je disais, entre voilà, un peu le tout venant, toutes les sociétés, et puis aujourd'hui, l'immobilier aussi, qui représente une grande partie de vos projets.
Alors l'immobilier... que ce soit chez nous ou sur le marché, hein, du crowdfunding de manière générale, c'est effectivement très prépondérant. C'est lié, je pense, à la typologie d'investisseurs. Hein. C'est nos investisseurs. Donc nous, on a 170 000 investisseurs inscrits sur notre plateforme. C'est des particuliers, c'est des gens qui vont investir des petits tickets. C'est vraiment, on va dire, l'ADN du crowdfunding. Hein. C'est de pouvoir proposer au plus grand nombre d'investir dans des projets qui étaient auparavant réservés plutôt à une catégorie de grands investisseurs ou d'institutionnels. Donc là, on a diminué les tickets. Le ticket d'entrée, c'est 100 euros chez Wicid, ce qui veut dire que tout le monde peut investir et ce qui permet d'accompagner comme ça plusieurs projets avec pas forcément une très grosse mise de fonds, ou en tout cas diluer cette mise de fonds sur beaucoup de projets pour diluer son risque.
En tout cas, diversifier, voilà. C'est le maître mot. Et ce n'est pas Jean-David Haas, bonjour Jean-David, qui va nous contredire, un des patrons de Nextage AM. On rappelle ce que fait Nextage, Jean-David.
Bah, Nextage AM, c'est une aventure entrepreneuriale et humaine géniale que j'ai la chance de co-diriger maintenant depuis 20 ans, l'année prochaine. Donc notre métier, c'est le capital développement. Donc nous, notre métier, l'immobilier, on dit que c'est très bien. Les entrepreneurs, c'est très, très bien. Il faut aussi accompagner les entrepreneurs dans leur développement. Et on a eu la chance d'accompagner comme ça plus de 150 entrepreneurs depuis 20 ans. Et donc nous, notre métier, c'est d'élever, sélectionner, aider des entrepreneurs à grandir.
Il y a un point commun, j'étais en train de me dire, hein, on reparle du président Macron, c'est vrai qu'il a lancé cette Startup Nation. Alors pour le coup, c'est vrai que je le dis parce qu'on voit, c'était encore dans la une des Échos il y a deux jours, hein, des formidables startups qui ont émergé et qui lèvent maintenant des montants colossaux qui peuvent rivaliser vraiment avec les géants de la Silicon Valley.
Alors je ne sais pas si notre gouvernement actuel y est pour beaucoup. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il œuvre énormément pour l'investissement dans l'économie réelle. Il y a aussi beaucoup d'afflux de capitaux du fait des taux bas qui vont irriguer des fonds d'investissement qui ont besoin de déployer cet argent. En tout cas, c'est bien pour notre nation, c'est bien pour notre économie, c'est bien pour l'innovation, c'est bien pour la création d'emplois locaux. Et donc, on a besoin que cet argent vienne irriguer les PME et on est très content de pouvoir aider et démocratiser, notamment grâce à la loi Macron. Et à l'époque, il était plutôt ministre des Finances que...
Il a pas mal œuvré.
Donc il a œuvré.
Pour vos deux métiers, messieurs.
Il continue.
Alors tiens, justement, on va rendre l'aspect un peu plus concret. Jean-David, parlez-nous justement des dernières sociétés sur lesquelles vous avez investi ou celles qui sont emblématiques de vos portefeuilles.
C'est vrai que Nextage AM, depuis maintenant 20 ans, s'est fait une spécialité dans le digital, la santé et l'environnement. Et franchement, je suis très fier de mes équipes qui ont pu faire des très beaux investissements depuis 12 mois. Les dernières en date, hein, on a Xerfi, qui est donc ce leader des études que vous connaissez tous. Si vous avez été étudiant, vous avez dû...
C'est techno, ça, Xerfi, ça fait...
En fait, c'est surtout, il y a beaucoup de données, beaucoup de data.
Oui.
Et au cœur de Xerfi, il y a une réflexion sur les secteurs et l'importance de la data pour ces secteurs. Et donc, Julien Potier, qui a fait cet investissement chez nous, a pour mission de la rendre encore plus technologique et encore plus digitale, puisqu'en fait, c'est une entreprise d'études à la base, mais qui a besoin aussi de se moderniser. Et donc, c'est pour ça que Julien intervient avec l'équipe de Xerfi, qui fait franchement un travail magnifique. On a aussi eu la chance, grâce à Nicolas de Saint-Etienne, d'accompagner une très belle société dans le domaine de l'environnement. Vous savez qu'aujourd'hui, je pense que dans l'immobilier également, c'est un sujet majeur aujourd'hui qui concerne tout le monde. Mais que ce soit au niveau des panneaux photovoltaïques, que ce soit au niveau des bornes électriques, on a la chance d'accompagner une société qui s'appelle Solstice, j'espère que ça a le solstice de printemps.
Solstice avec un Y, c'est ça ?
Avec un Y, ouais. Exactement. Qui fait des merveilles dans ces environnements et qui est probablement une des sociétés les plus en pointe, notamment dans les milieux complexes. Et c'est vrai que dans les villes, on cherche à essayer de renouveler un peu notre bâtiment et le moderniser. Et les bornes électriques et les panneaux photovoltaïques nous paraissent être un segment très porteur. Et donc là, Nicolas de Saint-Etienne a fait une très belle opération en finalement convaincant les entrepreneurs de Solstice de nous rejoindre.
Ouais. Et bien sûr, vous insistez sur le temps long chez Nextage. On voit que finalement, vous n'êtes pas là pour faire un coup. Vous accompagnez les investisseurs et finalement, cette création de valeur, parce qu'au final, c'est ça qu'on cherche quand on investit à vos côtés, elle se fait à condition d'être fidèle et de suivre l'entreprise qui se bonifie et surtout qui grandit dans le temps.
Si vous voulez, aujourd'hui, on est un peu frappé par... la vitesse des choses et je pense que dans cette vitesse, il faut aussi que les entrepreneurs aient des partenaires fidèles et long terme. Et je pense que Nextage AM, depuis maintenant 20 ans, a œuvré pour ce faire. Il y a des sociétés qu'on a accompagnées 15 ans. Je vous donne un petit exemple. On avait investi en 2007 chez Botanica, une très belle entreprise dans les Alpes-Maritimes. On vient de cette année de céder l'entreprise à un groupe industriel. Mais c'était un bonheur de pouvoir aider l'entreprise de tripler finalement de taille en 15 ans et de les aider à grandir. Je pense qu'une entreprise, elle a besoin de mûrir. Et il ne faut pas couper les arbres trop tôt, parce que sinon, on va avoir un problème en France, qui est le problème tout simplement de trouver des emplois pour nos jeunes.
Mais ils ne sont pas coupés. C'est-à-dire qu'à un moment, on a l'impression que voilà, y a une belle start-up qui émerge. Donc, on sait la galère que c'est pour récupérer ses premiers clients, ses premiers millions. Et une fois qu'on a atteint cette fameuse traction, à ce moment-là, il y a tout le monde qui vient vous courtiser et malheureusement des gens avec des poches très pleines, que ce soit du côté des États-Unis ou au contraire du côté de la Chine. Est-ce qu'on peut rivaliser aujourd'hui avec ces grands acteurs ?
C'est sûr que le marché européen est plus petit aujourd'hui et plus compliqué que le marché chinois ou le marché américain. Et on a un enjeu devant nous et je pense qu'on est probablement la première génération qui doit vraiment l'affronter, qui est de faire vraiment émerger le marché européen au sens économique pour nos PME. Donc est-ce que c'est facile ? Non. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs et des investisseurs de bonne volonté qui nous accompagnent depuis maintenant 20 ans ? Oui. Et je pense qu'il y en a de plus en plus. Et c'est ça qui est assez réconfortant. Quand on a créé la société avec Grégoire Saint-Hil il y a 20 ans, franchement, on avait l'impression de prêcher dans le désert. Et quand on voit aujourd'hui l'évolution des acteurs institutionnels et l'envie qu'ils ont d'accompagner ces projets locaux sur les territoires et d'aider ces pépites justement de nos territoires à se grandir, on dit que finalement, on est au début d'une vague qui est intéressante pour nous.
Alors, les investisseurs qui nous écoutent sont sur les dents. On sait qu'on a une merveilleuse plateforme dans le crowdfunding immobilier. L'autre côté, tout ce qui est start-up, private equity. On va voir comment on fait pour investir très pratiquement. C'est dans un instant, une courte pause. On se retrouve juste après. Et on vient d'écouter Jane Combe sur Radio Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine spécial investissement de fin d'année, on peut s'intéresser au crowdfunding, on peut s'intéresser au private equity, pourquoi pas des fonds de défiscalisation. On en parle, notre page très pratico-pratique avec nos deux invités, Louis Ravreau, directeur commercial immobilier WeSeed Immobilier, Jean Davidas, directeur général et cofondateur de Nextage AM. Louis, on démarre, on recommence avec vous. Justement, comment on fait ? Tiens, parce qu'il y a quand même une interrogation, même peut-être une inquiétude de certains qui se disent, mais quand on voit les rendements qui peuvent être obtenus grâce au crowdfunding, 8, 9, 10%, parfois plus, on se dit, bah, quel est le truc ?
Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le financement d'une opération de promotion immobilière, par exemple, nécessite une certaine mise de fonds propres en fait, pour obtenir le crédit bancaire, hein, pour financer l'acquisition du terrain et les travaux de construction. Le promoteur va avoir besoin de faire un prêt auprès de sa banque, classiquement, et cette banque va lui demander d'amener ses fonds propres.
Une analogie, ça peut être finalement si nous-mêmes, voilà, en particulier, on va à la banque, aujourd'hui surtout, ou que ça s'est un petit peu diversifié du côté des banques, on va demander un apport, voilà. Vous aussi, d'avoir
Comparer ça à ce qu'un particulier ferait pour acheter son appartement, c'est un peu différent, les logiques ne sont pas tout à fait les mêmes, notamment au niveau de la durée. Une opération de promotion immobilière, le but c'est d'acheter le terrain, de construire l'immeuble, de revendre les appartements, tout ça dans un horizon assez court. on est sur des horizons d'investissement qui sont autour de 24 mois. Mmh. Et donc le principe, c'est que la banque qui finance l'opération va demander au promoteur un apport donc de fonds propres, et c'est sur cet apport de fonds propres que WeSeed et que les plateformes de crowdfunding en général peuvent intervenir pour investir aux côtés du promoteur.
D'accord, ça veut dire que finalement, le promoteur, lui, il accepte de payer un petit peu plus cher cette amorce pour pouvoir avoir plus d'effet de levier.
C'est ce qu'on appelle le levier, tout à fait. C'est vraiment ça le mécanisme fondateur, hein, c'est l'effet de levier. Le crédit bancaire, lui, il a un coût qui est tout à fait absorbable par l'opération, qui va représenter à peu près 80% du prix de revient de l'opération, voire 90% sur la promotion. Et les 10 ou 20% restants, ça, c'est les fonds propres du promoteur qui vont permettre donc le démarrage de l'opération. Et c'est sur ces 10 ou 20%-là que nous, on va intervenir. Et on va financer tout ou partie de ces fonds propres-là. Donc, avec le crédit bancaire qui, lui, a un coût très faible et la mise de fonds propres que nous, on amène, en fait, tout ça s'équilibre. Et on va dire que le bilan d'une opération de promotion immobilière dégage en général une marge entre, on va dire, 8 et 10% à la fin. Et nous, on va représenter là-dessus un coût finalement qui va être de l'ordre de 20% de cette marge-là. C'est pour ça que les 10% sont tout à fait absorbables par une opération immobilière.
Et alors l'intérêt également, c'est qu'on n'immobilise pas finalement son argent, c'est finalement des opérations assez courtes, c'est quoi 18, 24, 36 mois.
Voilà, donc c'est ça, on est dans l'immobilier, hein, dans l'environnement que nous on finance, c'est des opérations donc court terme, ce qu'on appelle court terme, hein, donc promotion, marchand de biens, qui vont durer entre 18 et 36 mois, tout compris. Alors avec ça reste de l'immobilier, donc il peut y avoir des glissements, il peut y avoir des retards sur certaines opérations, mais qui sont pas problématiques dans notre secteur, puisque comme nous on est prêteurs, ça je l'ai pas dit, mais c'est du prêt qu'on fait, ce sont des obligations, c'est-à-dire qu'il y a un taux d'intérêt, le taux d'intérêt dont on parle qui est de 8 à 10%. Il est annuel, donc si l'opération dure un peu plus longtemps que prévu, l'investisseur finalement gagnera 6 mois d'intérêt en plus.
Louis Ravoreau, dès qu'on parle d'obligation, on dit aussi potentialité de défaut, malheureusement. Est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est arrivé au cours des années, des quelques centaines de projets que vous avez déjà financés?
Ouais, alors en termes de volume, on a fait 320 millions d'euros de levée de fonds chez WeSeed, donc depuis le début, hein, depuis 2008. Là-dessus, on va dire 70% d'immobilier, donc c'est plus de 220 millions d'euros sur l'immobilier. Ça représente 700 projets depuis l'origine, donc c'est quand même un volume assez considérable. Donc on commence à pouvoir dire qu'on a ce qu'on appelle un track record, donc on peut regarder derrière nous et voir ce qui s'est passé. Et effectivement, qui dit rendement élevé dit forcément risque en face, sinon il n'y aurait pas ce rendement-là. Mm-hmm. Ce rendement, il doit être proportionné par rapport au risque. Et nous, notre métier, c'est de sélectionner les opérateurs et les opérations pour que il y en ait le moins possible. Cela dit, il peut y en avoir. Et nous, chez WeSeed, on a eu effectivement une opération en défaut, ce qu'on appelle en défaut, qui est connue. Hein, là-dessus, nous, on a une grande transparence. C'est l'opération avec le promoteur Terla qui a déposé en fait le bilan en 2017. Mm-hmm. Hein, donc, c'est vieux maintenant. Et donc, notre conseil de départ, on ne l'a pas changé, c'est-à-dire de diluer son risque sur beaucoup d'opérations. Là, sur cette opération, ça a effectivement été important, puisqu'on n'avait pas de grosse mise de fonds unitaire sur cette opération.
D'accord.
Et nos investisseurs continuent à nous faire confiance et on a amélioré aussi notre analyse depuis.
Alors justement, pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire qu'on peut très simplement aller sur le site WeSeed, on crée un compte, comment ça se passe? On met son compte ou
on peut s'inscrire en quelques clics, hein, c'est-à-dire qu'on s'inscrit sur la plateforme. Alors maintenant, il y a toute la dimension réglementaire. Hein. Donc nous, on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un agrément, donc on est contrôlé par l'AMF, la CPR. Voilà, on a des process très très précis là-dessus. Mais on s'inscrit en quelques clics, on fournit ses justificatifs donc habituels, et derrière, on peut investir, avoir accès directement aux opérations qu'on propose, qui peuvent être de l'ordre de 2 à 3, 4 opérations par semaine sur la plateforme. Donc sur tout secteur confondu, beaucoup en résidentiel, hein, on a 90% de notre activité en résidentiel, France entière.
L'opération, le montant, c'est à partir de quel montant on peut investir?
Alors on peut investir à partir de 100 euros, ça c'est le parti pris chez WeSeed, de vraiment rendre cet investissement accessible au plus grand nombre, et de permettre effectivement de répartir son risque sur beaucoup d'opérations, parce qu'on a un fort volume, donc ça permet, si on a 10 000 euros à placer, de faire par exemple 10 investissements de 1 000 euros plutôt qu'un seul.
Très bien, ben voilà le bon conseil, effectivement, diluer son risque et diversifier au maximum. Alors, on peut aussi diversifier et même défiscaliser avec les FCPI. Jean-David, je me tourne vers vous avec ce nouveau cru, découverte 2020-2021. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Et quelle est la réduction d'impôts dont on peut bénéficier?
En fait, c'est un dispositif fiscal qui existe depuis 1997. Hein, et nous, on a commencé dès notre création à proposer des FCPI à nos clients. Aujourd'hui, on a plus de 50 000 souscripteurs dans nos fonds. L'idée étant d'accompagner des PME dans le cadre d'un fonds commun de placement dans l'innovation. Donc, c'est des PME innovantes. Ce n'est pas forcément des startups. On est plutôt dans des sociétés qui sont en phase d'accélération, donc ce qu'on appelle le capital développement innovant. Mais en tout cas, c'est des sociétés qui ont besoin de nous pour grandir et pour se développer. L'avantage fiscal, il a évolué au fil des années. Hein. Il y a eu différentes lois. Il s'est réduit, il a réaugmenté. Parce qu'en fait, on est passé de 25 à 18. Et là, on est à 22%, en tout cas, en ce qui concerne nos fonds sur ce millésime.
Mm-hmm. 22,5% sur l'IR, hein, c'est-à-dire sur l'impôt sur le revenu.
Exactement, sachant qu'il y a aussi un autre avantage fiscal dont on parle moins, mais qui est important, qui est qu'on ne paye pas d'impôt sur les plus-values à la fin de vie du fonds, hors CSG, hors prélèvements sociaux.
Bien évidemment. OK.
Donc, ce qu'on peut dire sur ces véhicules, c'est qu'en moyenne, ils vont faire 10 à 15 investissements. Et l'idée, c'est vraiment de sélectionner des PME cotées et non cotées et les aider à grandir sur les 7 ans, parce que généralement, ces véhicules durent à peu près 7 ans.
Là aussi, le track record dont parlait Louis à l'instant, c'est important. Donc, c'est si vous avez commencé il y a quelques 20 ans, c'est le 20e millésime peu ou prou. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme performance? Parce qu'il y a un petit doute hein, sur ces placements qui n'ont pas toujours bénéficié d'une belle aura. On se disait, mais en fait, finalement, la réduction d'impôts, on la paye avec beaucoup de frais et puis avec des performances qui, au final, ne sont pas terribles.
Il y a une analogie que j'aime beaucoup, qui est celle du vignoble et du vin. Hein. C'est-à-dire que il y a des bons millésimes et des moins bons millésimes. Et je rejoins mon collègue qui a raison, il faut diversifier les millésimes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout miser sur une année. Dans nos métiers, dans les PME, on l'a bien vu notamment avec le Covid, il y a des choses qui sont assez imprévisibles. Et si vous misez tout une année, vous prenez un gros risque. Donc nous, notre conseil à nos clients, c'est bien évidemment d'en faire un petit peu chaque année. Et donc, on est après aussi soumis à différents types de vignerons. Il y a à peu près une trentaine de sociétés de gestion en France qui font des FCPI. Forcément, les 5 meilleurs vignerons sont meilleurs que les autres. Donc on essaie d'être régulier chez Nextedge AM. On a eu des mauvais millésimes. Hein. Donc sur nos 20 véhicules, il y a 4 millésimes où on est négatif. En revanche, en moyenne, les fonds positifs sont entre plus 20 et plus 40% hors avantage fiscal. Donc si vous additionnez les avantages fiscaux qui ont été entre 18 et 25%, finalement, un client, il va faire 6-7%. Et au-delà du annuel et au-delà de la performance annuelle, il va surtout contribuer à la création d'emplois et au développement de nos PME.
Alors justement, oui, on y vient. Donc, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent, on n'est pas dans une émission sur le vin. Évidemment, on parle des fonds dans l'innovation pour éventuellement défiscaliser. Mais c'est vrai qu'on le redit là, l'un et l'autre, hein, vous allez investir derrière cet argent des Français. Je dis ça parce que les Français sont de plus en plus conscients de leur épargne et de la force et de ce qu'on peut changer à travers son épargne. Là, au moins, ce sont des projets locaux français qui créent de l'emploi, qui sont bénéfices, qui bénéficient à l'économie française.
C'est génial. Moi, je fais un métier fabuleux. Franchement, je ne peux qu'encourager les gens qui nous écoutent à embrasser ce métier. J'ai, par exemple, investi récemment à Toulouse. Donc, c'est vrai que nous, on se balade. Hein. On est à Toulouse. On a été à Laval. On est à Nice. On est sur la côte basque également, à Anglette. Et on essaie vraiment d'aider les entrepreneurs à avoir les moyens de leur développement. Là, typiquement à Toulouse, on a trouvé une société magnifique qui s'appelle EasyMile, qui est dans la logistique et surtout les logiciels pour les véhicules autonomes. Vous savez que les véhicules autonomes, tout le monde connaît Tesla, mais qui n'est pas encore totalement autonome. Mais dans les entreprises aussi, c'est important, les véhicules autonomes, notamment sur les aéroports, sur les ports. Donc il y a beaucoup d'industries ou sur les sites logistiques. Il y a beaucoup d'industries qui vont avoir besoin de véhicules autonomes. Et donc, à Toulouse, on a un leader mondial. Un leader mondial qui a été un des premiers à développer des logiciels. Il y a plus de 200 ingénieurs qui développent les logiciels. Ils ont d'ailleurs beaucoup profité des dernières années là, de Covid pour essayer de récupérer des talents de l'industrie aéronautique, hein, puisque L'industrie aéronautique a été assez marquée par l'industrie du Covid, enfin par le Covid.
Oui. C'est un espèce de Rivian à la française, c'est ça ? Donc on voit des petits shuttles, des minibus complètement autopilotés, enfin sans pilote d'ailleurs.
C'est plutôt un Microsoft pour les véhicules autonomes, c'est-à-dire qu'eux font logiciel.
Ah, ils font le soft, ok.
Ils ont également un véhicule autonome parce qu'il fallait bien montrer que ça marchait. Mais l'idée, c'est vraiment de trouver des leaders mondiaux dans leur domaine et de leur dessiner les logiciels qui vont être adaptés à leur développement.
Ouais, c'est intéressant dans le sens où on sait que demain, ça sera peut-être le cœur du réacteur de la voiture. Ça sera plus effectivement la mécanique, mais beaucoup plus le soft. Donc, bravo, EasyMile. Donc, vous êtes rentré dans le capital, vous les accompagnez depuis cette année.
Et là, typiquement, ils ont été dragués par des grands fonds américains. Et Gilbert Gagnère, qui est un homme exceptionnel, nous a fait une place aux côtés d'un fonds qui s'appelle Searchlight. Et de la BPI. Ouais. Donc, on est très heureux d'avoir été invité dans cette opération.
Et oui, bien sûr, les success stories comme ça, c'est plutôt les investisseurs, on le rappelle, qui doivent forcer la porte et essayer de rentrer dans ces pépites de demain. Même question, tiens, alors sur l'immobilier. Alors, ça participe, je crois que c'est massivement des investissements en France que vous soutenez également.
C'est
donc, finalement,
France,
c'est de l'emploi et de l'économie aussi française.
Ah ben tout à fait. Nous, on a donc sur le volume de nos interventions, sur cette année par exemple, on va financer en immobilier environ 130 projets. Donc derrière ces 130 projets, c'est des entreprises qui vont effectivement travailler à réaliser les opérations. Donc ça peut être des travaux de construction qui mobilisent un nombre d'intervenants importants. Et ça, c'est de l'emploi local. On intervient, nous, sur des... On est beaucoup sur la région Île-de-France, sur la région Rhône-Alpes et en Occitanie. Vous parliez d'EasyMile, ils ont commencé dans les mêmes locaux que nous à Toulouse. Donc c'est assez marrant.
Ouais, notre
siège est à Toulouse. Et donc effectivement, derrière, il y a beaucoup d'emplois. Il y a beaucoup, alors en ce moment, pas mal de difficultés sur les chantiers liées aux difficultés d'approvisionnement en matière, etc. Mais c'est des choses qu'on regarde de très près, nous, chez WeSeed, justement, par rapport au suivi de nos opérations et à l'évolution qu'on pourra connaître sur les mois à venir.
Très bien, en tout cas, voilà de bonnes pistes pour cette fin d'année, pour vos investissements. N'hésitez pas à diversifier, que ce soit chez WeSeed, on rappelle l'adresse, Louis, WeSeed.com, donc WeSeed.com pour investir. Combien de projets ? Là, il y en a encore ?
Alors là, la semaine prochaine, effectivement, on aura 3 ou 4 projets qui seront mis en ligne, dont un qui sera en station de ski, puisque bon, ce week-end, ils annoncent beaucoup de neige. Donc la semaine prochaine, on a une opération aux Deux Alpes qui va ouvrir, la réhabilitation complète justement d'un ancien hôtel qui était complètement obsolète en termes énergétiques et qui va être complètement rénové, remis aux normes. On attache aussi une importance là-dessus. Nous, on a un scoring sur les critères ESG de nos investissements qui permet de qualifier ça auprès de nos investisseurs et de proposer des opérations avec un impact.
Les fameux critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. Donc des opérations à peu près chaque semaine. Voilà. En tout cas, on rappelle, ça part de plus en plus vite, forcément.
Voilà, la base de données. C'est 600 000 euros ce qu'on va collecter aux Deux Alpes. Il y aura un rendement de 9% par an. Ça va ouvrir la semaine prochaine et ça va partir en quelques heures. Ouais, tout à fait.
Voilà pour WeSeed du côté de Next Stage AM. Là aussi, comment on fait ? On peut passer en direct ? On passe par son conseiller en gestion de patrimoine, Jean Davidas ?
Nous, on s'est toujours reposé sur des conseillers en gestion de patrimoine et des banques. Donc, on a la chance d'être référencé dans plus de 300 entre guillemets maisons de conseil. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont quand même des sujets pas simples. La fiscalité, elle évolue, donc vous avez besoin de conseils. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers en gestion de patrimoine. Normalement, ils doivent connaître la maison Next Stage AM. Et en revanche, vous trouverez sur notre site tous nos investissements. On a fait un gros effort pendant le Covid. Et je remercie notre équipe marketing et Jonathan Boudin qui a fait un travail magnifique pour justement faire vivre ces aventures d'entrepreneurs le plus près possible de nos investisseurs. Donc, vous verrez, il y a nos investissements. On est transparent sur nos performances. Et vous avez aussi accès, bien évidemment, à des vidéos d'entrepreneurs. Et je pense que c'est ça que nos investisseurs aiment le plus.
C'est vrai. C'est de savoir aussi la petite histoire derrière la grande et des histoires d'hommes et de femmes, bien évidemment. Merci en tout cas à nos deux invités des deux placements de diversification. C'est ce qu'on voulait entendre en cette fin d'année. Merci à Louis Vravro. Je rappelle que vous êtes directeur commercial immobilier chez WeSeed Immobilier.
Merci Fabrice.
Et merci également à Jean-David Haas, directeur général et cofondateur de Next Stage AM. Cette édition spéciale Hebdo de Patrimoine se termine. Merci à David Payan qui l'a réalisé. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau et dernier numéro de l'année de l'Hebdo Patrimoine. À très bientôt.
L'Hebdo Patrimoine. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.